bonjour, merci d'être venu nous voir. On va parler de fantasy aujourd'hui et on va parler plus spécifiquement et spécialement des séries de fantasy un petit peu long cours. Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on tient à la distance? Parce que faire un roman, faire un one shot assez nerveux, présenter ses personnages, présenter ses actions, c'est bien. Puis à un moment, et bien les séries, elles font un tome, deux tomes, trois tomes, parfois dix tomes, beaucoup plus, où on revient parfois dans le même univers. Et donc on va s'interroger avec les auteurs présents sur tous ces aspects-là. On va commencer. Alors, nous avons la chance d'avoir Robin Hood et Lionel Davout qui traduit donc, pour Robin Hood les questions et les réponses. Robin Hood, vous connaissez forcément l'Assassin Royal, son cycle principal, son cycle majeur. Il vient d'y revenir justement avec une nouvelle série dans l'univers de l'Assassin Royal. Donc on va lui demander un petit peu ce qui fait qu'elle revient comme ça sans cesse à ses personnages et ce qui fait qu'on s'attache aussi à un univers ou pas. Quand on est auteur. L'autre demoiselle que nous avons avec nous, c'est Estelle Farrell. Voilà. Alors, Estelle, elle a fait plusieurs bouquins avec 4 livres et elle se lance dans une série qui s'appelle La Voix des Oracles. Voilà, et on va en parler aussi. Il y a 2 tomes parus chez Scrinéo. À ses côtés, Pierre Collomb qui nous vient plutôt du Polar et qui vient de nous sortir Blizzard aux éditions Nemos. C'est le premier tome. Et on va parler de la suite. Et puis, nous avons également Régis Godin. C'est une aventure assez particulière parce qu'on savait que dès le départ qu'il y aurait 7 tomes. Et quand on nous a dit cet auteur-là, il y aura 7 tomes en 3 ans, vous allez voir, on va tous faire ah ouais, vous êtes sûr. Et puis là, il vient de sortir le 6e et il va terminer le 7e. Donc, autant vous dire que pour une première œuvre, en termes d'ambition, de se dire moi je vais déjà en faire 7, c'est déjà pas mal. Ouais, 7. Le Robin Hood était pâté. On va peut-être, la première question, on va faire un tour de table, on va leur demander, quand ils ont eu l'idée de l'histoire, est-ce qu'ils savaient déjà que ce serait une série? Ou est-ce que d'un seul coup, c'est l'histoire qui les a emportés? Parfois, vous avez des auteurs qui disent, moi je voulais en faire 3, puis finalement j'en ai fait 7, ou j'en ai fait 10. Parfois, il y en a qui disent, mais moi je savais déjà dès le départ, donc on va leur donner un petit peu la parole. Première question pour vous, Robin Hood. Par exemple, Assassin Royal, vous saviez dès le départ que ce serait une série?
I knew from the outset that it would be at least a trilogy, and I knew that many of the things would happen, but when I finished writing Assassin's Quest, I really thought I was finished writing about Fitz and the Fool. I wanted to go on writing about what would happen further south down the coast in Bingtown and Javalia, but I did not expect at that time that I would come back to writing Fitz and the Fool. About halfway through the first book of The Lifeship Traders, I realized there that I did want to write more. I thought, though, that Fitz's story had ended at a good place, and I thought, well, I'll write just one more chapter for me, not for publication, to prove to myself that I am finished telling his story. I wrote 35 pages, and I knew I had a problem. So at that point, I, of course, finished the Lifeship Traders trilogy and then asked the publisher if they would be interested in hearing more about Fitz and the Fool.
Quand j'ai commencé la trilogie d'Assassin Royal, donc trilogie qui correspond aussi au premier volume de l'Assassin Royal en français, donc la trilogie farcée qui correspond aussi pour la première époque. Donc Robin dit, je savais au moins qu'il y aurait une trilogie, je savais qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qui se produiraient, mais quand j'ai terminé donc, la fin du 6e volume français, je savais que je pensais en avoir terminé avec l'histoire de Fitz et du Fou, et j'avais envie d'aborder ce qui se passait plus au sud de la côte, c'est-à-dire vers Terrelville et Jamaïa. Et je ne m'attendais pas à revenir à l'histoire de Fitz et du Fou. Mais alors que j'étais à peu près vers la moitié du premier volume des Aventures et de la Mer, donc les 2 premiers volumes en français, je me suis dit qu'il y avait peut-être davantage à écrire concernant donc, ces 2 personnages. J'avais la sensation que l'histoire de Fitz avait bien terminé, c'était bien bouclé, mais bon, ça me travaillait un peu, donc je me suis dit que j'allais écrire juste un chapitre de plus pour moi, pas destiné à la publication, mais juste pour me prouver que j'allais finir à raconter cette histoire. Quand je suis arrivé là, j'avais 35 pages, je me suis dit que j'avais peut-être un problème. Alors, à ce moment-là, j'ai évidemment terminé les aventures de la mer, et puis j'ai demandé à l'éditeur commencé à écrire un peu par désœuvrement dans le train. Je ne connaissais pas mes personnages, je ne savais pas où ils allaient. Et j'ai commencé à écrire leur aventure tout simplement, qui s'est déroulée comme la vie avance en quelque sorte. Hein. Et quand ça a fait à peu près 400 pages, hein, j'aime bien les livres de 400 pages parce que ça rentre dans le sac hein, quand on prend le train. C'est pratique, hein, j'ai plein de design, si vous voulez. Et donc, et puis il y a suffisamment à lire hein, quand on lit 5 heures, 6 heures par jour. Hein, un livre de 100 pages, on ne prend même pas parce que ça n'arrive pas à Paris, hein, c'est arrivé à Creil, on a terminé. Et donc, hein, c'était vraiment une question de volume de lecteur au long cours, comme beaucoup d'entre vous. Et quand ça s'est arrivé à 400 pages, ça coupait un bon moment, et j'ai envoyé aux éditeurs que j'aimais, et ça marchait. Et quand on s'est retrouvé donc, avec Mary Rivalent, qui est l'éditrice, dans un petit bistrot du côté de Paris pour discuter un peu de cette histoire-là, elle m'a dit ça va faire combien de tomes j'en savais rien, j'en savais rien du tout, parce que je ne savais pas du tout comment ça se terminait et comment elle allait continuer cette histoire-là. Et c'était ici, les finales, quelques mois après, donc en 2012, avant la sortie du premier livre, hein, qu'elle m'a demandé un petit peu bon, on va commencer maintenant pour 2013, on va le sortir, ça va faire combien de tomes. Et j'avais essayé de faire une même structure, mais c'est contre nature pour moi, je ne sais pas faire ça. Alors, j'avais essayé comme ça de voir par où ils allaient passer, ce qu'ils allaient faire. Et puis, je dis 5 tomes, ça va être trop court, hein, peut-être 6, peut-être 7. Hein. Et Myriam m'a dit, ben 7 tomes, 7 rois, 7 royaumes, c'est parfait, on fait 7 tomes. Voilà. Et ça démarrait comme ça. Et ça nous a donné un objectif en termes de temps, un objectif aussi en termes de volume hein, d'écriture. C'est en gros tout ce qu'on a en termes de structure pour la fin de cette histoire-là.
C'est intéressant parce que vous avez vu, du coup, c'est un objectif pour lui.
Oui.
C'est pas l'histoire qui impose le nombre de tomes. C'est... On va pouvoir parler aussi, même si les structures, on va pouvoir y réfléchir.
C'est une contrainte comme une autre.
Ouais. Même question, Estelle. Alors, Estelle, t'as commencé par deux volumes uniques, entre guillemets, de one-shot. Trois. Et elle avait besoin d'un un deuxième tome. Alors, qu'est-ce qui fait que cette série-là, tu te dis, j'ai besoin de plus de place?
D'abord, en fait, il y avait une certaine frustration par rapport à mon premier roman publié, qui était La dernière lame que certains, je pense, ont vu dans la salle. Et qui était un monde qui, je pense, était un peu trop à l'étroit dans un one-shot, qui à l'époque, j'ai fait un one-shot pour plein de raisons et parce que j'étais jeune. Et les lecteurs ont beaucoup envoyé comme retour qu'effectivement, il y avait trop d'ellipses, que c'était vraiment, enfin, c'était trop coupé, c'était trop caviardé. Et j'étais assez d'accord avec eux, même très d'accord avec eux. C'est pour ça que quand j'ai commencé à parler de cette histoire de la voix des oracles et que j'ai vu à quel point elle se développait, je me suis dit, celui-là, je jure, je le place en série ou je ne le place pas. Voilà. Et là, suite notamment au prix Makin que j'avais eu pour mes romans précédents, Porcelaine, donc je reçois un coup de fil de Scribeo, un éditeur avec qui j'avais bien envie de travailler, en plus j'aime bien ce qu'il faisait, et puis bah, je me dis, après tout, je vais y aller avec mon projet. Alors voilà, c'est une série. De toute manière, ça fera 3 tomes. De toute manière, ça se passe au 5e siècle, pendant la fin de l'Empire romain. Oui, je sais, c'est une période que personne ne connaît. Enfin, voilà, le deal sur la table, vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est 50-50. Et ils ont dit, non seulement on prend, mais en plus, on est super intéressés, vas-y à fond dans la civilisation, vas-y à fond dans les 3 tomes. Dans la structure, en plus, en 3 tomes que je vais mettre en place, c'est-à-dire vraiment à chaque tome, on étend l'univers. Donc, premier tome, on a vraiment une traversée de la Gaule. Deuxième tome, j'éclate mon groupe de personnages et ils partent vraiment jusqu'au fin fond de l'Orient et ils traversent aussi toutes les mers à peu près qui se trouvent autour des pays où ils sont. Et troisième tome, ça part encore dans quelque chose de différent, mais je ne le dirai pas parce que ça sera un gros spoiler. Voilà. Et vraiment, on avait cette structure-là. Et en même temps, l'autre chose qui m'intéressait avec la série aussi, c'est entre chaque tome, d'avoir des retours de lecteurs et d'affiner chaque tome en fonction de ce que les lecteurs me renverraient aussi. Donc c'était aussi ça que je voulais tester avec la série, c'était vraiment ça qui m'intéressait, dans cet aspect-là. Et je me disais, mon monde, finalement, je le connais assez, je l'ai assez en tête pour pouvoir un petit peu improviser à l'intérieur en fonction de ce que renverraient les lecteurs aussi, et faire évoluer en fonction de ça. Et donc c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment.
Pierre, la même question, premier tome qui m'arrivait bizarre. Combien va y avoir et qu'est-ce qui fait que par rapport à la mort en rouge, tu te lances dans une série, là spécifiquement? Est-ce que c'est le genre, par exemple, la fantasy qui incite ça?
Alors, effectivement, au début, j'avais, comme je viens du milieu du polar, j'avais tendance à faire des one-shots. D'ailleurs, la première version de Blizzard, c'était un one-shot. C'est-à-dire que je l'avais fait comme ça pour m'amuser entre deux polars. Et j'ai envoyé ça à Nemos, qui m'a dit le rythme est terrible, ça va très vite, c'est super. Mais il m'a dit, par contre, c'est un pilote que tu me devais. C'est pas un roman de fantasy, quoi. Il faut que tu fasses quelque chose de plus. Il y a de quoi faire une saga. Et en fait, c'est un exercice qui m'a plu. En fait, j'ai voulu me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose de plus long et de plus enrichi que les polars dont j'avais l'habitude. Et donc, je me suis lancé dans cet exercice et ça me plaît. En fait, ça me plaît parce que c'est vrai qu'on a tendance à vraiment enrichir l'univers à chaque fois, faire quelque chose de plus complet. Et voilà.
On va rentrer un petit peu dans la technique. On a par exemple compris qu'Estelle avait déjà l'univers, avait déjà les idées. Pour Robinum et aussi pour Régis, est-ce que l'univers était déjà en place dès le départ, ou est-ce qu'au fur et à mesure, un peu comme Pierre le dit, vous l'avez étendu, rajouté peut-être des pays ou des contrées ou des choses comme ça?
For me, it's kind of like the story always starts with the character. I always carry a book around in my brain for 2-3 years before I start writing it. So I know a great deal about this character and about his world before I sat down and actually started typing. I do think that I definitely know the beginning of the book. I usually know the end of the book. And there's a lot of space in between where I wander. So things are embroidered, characters are added, subplots are added, but the spine of the book is always fairly clear in my brain before I start writing. It is it does become fleshed out as I go along.
Pour moi, une histoire commence toujours avec un personnage. J'ai toujours un livre dans ma tête que je travaille avec moi environ 2 ou 3 ans avant de me mettre à l'écrire. Du coup, j'en sais beaucoup sur ce personnage ou éventuellement ces personnages avant de m'installer au clavier pour écrire. Je connais évidemment toujours le début. En général, je connais la fin. Et en fait, entre les deux, il y a beaucoup d'espace où je suis libre de vagabonder. Donc, au fur et à mesure de l'écriture, des personnages et sous-intrigues se trouvent ajoutés. L'épine dorsale qui fond le livre est pour moi toujours très claire et évidente. Mais oui, il y a tout à fait la place de développer et d'enrichir le monde au fur et à mesure. Est-ce que c'est justement un des plaisirs des séries et des longues sagas?
It definitely is. I think if I wrote a detailed outline and then tried to write the book, I would be very bored with it and tempted to make terrible things happen just to see what could happen next. So for me, it is better to have a general idea and follow the story and allow things to happen and to sometimes be surprised myself than it is to have a detailed outline and everything decided before.
Oui, tout à fait, très clairement. Je pense que si j'écrivais un synopsis extrêmement détaillé et puis qu'ensuite je me mettais à l'écriture, je pense que je m'ennuierais. Et peut-être que d'ailleurs je commencerais à faire arriver des catastrophes juste pour voir ce qui se passe et comment ça réagit. J'ai en général une idée générale de l'histoire à suivre. Mais je préfère voir simplement ce qui se passe au fur et à mesure de l'écriture plutôt que d'avoir un synopsis extrêmement détaillé qui, je pense, me ferait me sentir contrainte. Régis, un peu les mêmes questions. Donc, on a bien compris que tu as structuré au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu as ajouté, par exemple, à ton nom au fur et à mesure?
Disons que le monde, au départ, il fallait une carte. Hein. Tout le monde sait qu'il faut une carte quand on est dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai pris une des étapes d'évolution de la Pangée. Qui m'ont permis d'éviter. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'océan intérieur. Alors je les modifie un peu pour les besoins de mon histoire. Mais en gros, je suis parti d'une carte. Je n'avais pas de calendrier et je ne connaissais pas mes personnages. Ce qui fait qu'effectivement, de sortir les personnages apparaissent un petit peu froids au départ dans l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Les personnalités vont se construire au fur et à mesure des expériences qu'ils vont vivre. Et je trouve que c'est passionnant en termes d'écriture, même si c'est un peu empirique. ne sait pas dans quelle situation il va être à quelle situation je serai confronté. Par contre, je vais commencer à le connaître en fonction des choix qu'il va réaliser. Par exemple, les méchants, à un moment donné, ce sont les gardiens. Naturellement, il y a des gradations dans les méchants. Il y a plus méchants, il y a le mal absolu, il y en a qui sont des gens, tout simplement, en place à une section particulière. Et ce qui fait la personnalité des gens, c'est comment, finalement, dans une situation, ils vont réagir, quels sont leurs choix. Est-ce qu'ils vont rester intègres, hein? Est-ce qu'ils vont se compromettre, hein? Est-ce qu'ils vont réagir d'une manière qu'on n'attend pas? Et l'idée que je me fais du personnage correspond un petit peu aux gens que je rencontre dans la vraie vie. C'est-à-dire que je vous rencontre, je ne vous connais pas, et on va discuter ensemble, et en fonction des réponses, en fonction de ce qui va se produire, la fiche personnage se fabrique, et naturellement elle va évoluer. Elle va évoluer parce que les personnages, pour le petit une durée de vie assez importante dans la série, ils vont se mettre confrontés à différents types de situations. Ils peuvent très bien, à un moment donné, se révéler les contradictions. Les contradictions comme les contradictions dans les connaissances avec des gens qu'on croit connaître. Hein, et à un moment donné, on a une heureuse nouvelle surprise. C'est vraiment plutôt comme ça que moi j'écris. Ce qui fait qu'il n'y a pas effectivement de fiches personnages, il n'y a pas un fond. Le fond se creuse au fur et à mesure que l'histoire avance.
Je vais vous poser justement la question à vous deux qui avez fait des one-shots. Est-ce qu'un des plaisirs de la série, tout du moins, c'est de pouvoir creuser un petit peu plus loin ces personnages?
Je pense effectivement que ça joue beaucoup parce que le personnage va évoluer en fonction de notre histoire et comme le disait Agis, c'est aussi en fonction de. Des personnages qu'on croise. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un avec qui je travaille, je lui dis attention à ce que tu dis, parce que tout ce que tu dis peut se retrouver contre toi dans un livre un jour. Voilà, donc faire attention à ça. Bon, effectivement, je pense que ça joue. Après, moi, c'est pas forcément sur cet aspect-là que j'ai joué sur Bizarre. Moi, c'était plus. J'ai plus essayé, en fait, je savais directement où j'allais aller dès le début, parce que à la base c'était un one shot. Donc en fait ce que je voulais faire c'était garder le côté thriller, essayer de, à chaque fin de chapitre, de faire en sorte que le lecteur ne lâche pas le livre pour vraiment qu'il ait le cliffhanger jusqu'à la fin du roman. C'était ça mon but, en fait, de faire 3 tomes sur ce thème-là, et aussi de faire en sorte que l'univers se dévoile de la même manière que l'intrigue, c'est-à-dire qu'en garder pour plus tard, à chaque fois en garder sous la pédale.
Disons, pour moi, déjà, la série, ça me permet de faire vivre mes personnages sur plus longtemps et sur de plus longues distances aussi, de vraiment les amener en voyage, et aussi, surtout, de faire vivre plus de personnages, en fait. C'est-à-dire de pouvoir vraiment creuser toute une galerie de personnages secondaires et de découvrir même des aspects de personnages secondaires qu'à la base, je ne pensais pas forcément creuser. Bah, par exemple, dans le premier tome, il y a un personnage très secondaire dans le premier tome, qui est une sorte de dandy veulé lâche, qui donc est à peu près là essentiellement pour mettre des bâtons dans les roues donc de l'héroïne. Mais il se trouve que les lecteurs, dans les retours que j'ai eus, ont énormément accroché à ce personnage. Et ils m'ont dit, mais lui, on sent qu'il y a bien des motivations pour faire ça, on sent qu'il est plus profond qu'il n'y paraît. Alors ma première réponse, c'était, vous êtes sûr? Et puis, comme ça se répétait beaucoup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Après tout, si les lecteurs en veulent plus, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Et d'être dans une série, ça m'a permis vraiment de le creuser pour le tome 2, de chercher à en savoir plus sur lui. Et finalement, je me suis retrouvée, en fait, face à un personnage vraiment intéressant et puis super fun à écrire en plus. Enfin, je l'ai trimballé dans les bas-fonds de Subur à Rome, notamment. Ça fait partie des scènes que j'ai adoré écrire dans le 2. Et ça, c'est vraiment un des plaisirs de la série, de pouvoir se permettre ça, de pouvoir vraiment mettre un gros coup de projecteur sur lui, et ça, c'était bien cool, quoi.
Robineau, justement, alors, il y a certains personnages, ça fait quelques années que vous vivez avec, enfin, tout du moins, vous les mettez en scène. Quel est votre rapport avec eux?
When you live and work with characters for so long, they become very real
pareil pour le 20e anniversaire de la première publication américaine Assassin's Creed Atlantis, donc au tout début de l'Assassin's Creed Royal, ce qui fait que ça va probablement faire rapprocher des 25 ans que j'ai ces personnages dans ma tête. Et quand on vit avec des personnages comme ça depuis si longtemps avec soi, en fait, ils deviennent extrêmement réels, deviennent des amis très proches, des compagnons très proches au long terme. Je leur parle quand je fais des choses du quotidien, quand je tourne la pelouse, quand je fais la lessive, etc. Et parfois je leur demande, je leur fais, bon alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et j'ai des extraits de dialogue, des échanges de répliques qui me viennent en tête. Comme ça, des petites pièces du puzzle qui viennent s'insérer parfois dans les interstices d'une histoire. Dans un commencement, il est même extrêmement réel. Et parfois, il est même difficile de croire que. Pour moi, il est parfois difficile de croire qu'il n'existe pas réellement quelque part. D'ailleurs, c'est au point où ça arrive quand je suis en train d'écrire très en détail et très profondément un livre, je suis très immergé dans l'écriture. Je téléphone, on fait alors comment ça va. Et parfois, j'ai envie je suis parti pour leur réponse que fixe et fou sont en train de faire, plutôt que ce que moi et les enfants, mon mari, on est en train de faire. Donc, en fait, c'est une relation de très long terme.
Et pourquoi justement certains de ces personnages, alors vous avez d'autres séries comme qui en revient, etc. Qu'est-ce que fixe le fou en plus?
Je pense peut-être c'est parce que j'ai une relation plus intense en particulier avec Fitz. Et la raison c'est peut-être que en fait c'est écrit à la première personne. Et j'ai écrit tellement de pages à la première personne que ça crée peut-être mécaniquement une relation qui est encore plus personnelle, encore plus profonde. Les autres livres que j'ai écrits, on passe d'un point de vue à l'autre. Alors que là, pendant toute la longueur du livre, on reste profondément avec ces personnages. Alors, ça veut dire que je n'ai pas une relation très profonde aussi avec les autres personnages. Mais là, c'est peut-être un cran au-dessus au niveau de l'intensité.
Une question sur tenir le coup. Par exemple, pour toi, Régis, il y a 7 tomes. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir l'attention des lecteurs pendant 7 tomes. Là, tu en as 6. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu y as pensé à chaque tome en disant, tiens, à la fin, il me faut un petit cliffhanger pour continuer? Comment est-ce que tu maintiens l'intensité avec les lecteurs?
Le défendeur, quand il arrive vraiment, il y a la fin d'un des tomes, mais sinon, on peut s'en sortir pendant un bon moment aussi. Normalement, c'est-à-dire que finir les dernières phrases est importante, et parfois, je l'ai pratiquement depuis le début. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais j'ai parfois la phrase de fin, parce que ça se termine bien comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire exactement. Maintenant, l'attention du lecteur, je crois que ce n'est pas forcément une question qu'il faut se poser quand on écrit comme moi. Ce serait artificiel, hein. Il faut maintenir l'attention pour nous. On est quand même notre premier lecteur. Et à partir du moment où l'histoire s'invente, hein, quand j'écris un chapitre et que je considère qu'il ne s'est rien passé, je l'efface. Si je m'ennuie à la relecture, c'est tout simplement que c'est seulement pas bon. Voilà, c'est seulement pas bon. Et donc, j'essaie de faire en sorte qu'avec la multiplicité des personnages de l'histoire, chacun avance un petit peu comme sur un échiquier. Ce qui fait qu'on va avoir différents points de vue. Il y a 4 ou 5 profils différents qui se croisent et qui se regroupent. Hein. Et à chaque moment, j'essaie de visualiser en disant mais où ils étaient la dernière fois. Voilà. À quel endroit de l'échiquier, à quel endroit de la carte ils se trouvaient. Combien de temps ça a dû s'écouler depuis ce temps-là et où il peut en être. Hein, et je me demande qu'est-ce qu'ils pourraient souhaiter pour cette partie de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils pourraient me peut-être leur projet pour ce chapitre-là. Et je pense que s'il y a une cohérence par rapport au temps, s'il y a un projet qui est cohérent par rapport à ce que dans leur situation ils pourraient souhaiter en termes d'amélioration, je pense que
très général les retours que j'ai eu sur mon fameux premier roman, et je pense que c'est assez vrai, j'ai une tendance à écrire plutôt trop serré. L'idée, au contraire, dans une série, c'est d'arriver à trouver le temps de se poser aussi par moment, de se poser avec les personnages, trouver le temps, par exemple, dans le deuxième tome, comme c'est un tome vraiment de voyage, donner le temps du voyage aussi dans l'écriture. Et vraiment faire sentir la durée du voyage, évidemment sans ennuyer le lecteur, mais avant tout, la première chose, c'était au contraire de ne pas tomber dans un rythme épileptique, quoi. C'était plutôt le danger inverse qui me guettait. Et pour ça, notamment, j'ai beaucoup discuté avec un des auteurs qui est présent sur le festival, qui fait du space opéra. Et qui est des discussions qui m'ont bien aidé à trouver ça, vraiment, ce rythme de voyage. C'est-à-dire, on a l'impression de marcher avec les personnages sur les routes. Et vraiment de découvrir avec eux le paysage au rythme où eux découvrent et pas d'avoir plein d'instantanés de paysages qui succèdent, quoi. Donc ça, c'est un peu le principal enjeu. Et l'auteur, celui qui fait pas kiffer, fait du super bon space-up.
Ouais, comme ça, c'est dit. Une petite question, vous avez entendu Estelle a parlé des lecteurs et des retours, Régis a parlé aussi des retours et des lecteurs. Alors, on va poser la question à Pierre et à Robin. L'importance des lecteurs, alors Pierre, par exemple, Blizzard est sorti il y a quelques mois, tu as commencé à avoir des retours. Quelle place ils ont pour toi et est-ce que ça a déjà commencé à modifier un petit peu dans l'histoire?
Alors effectivement, il y a eu déjà quelques retours. On va dire qu'il y a deux clans. En fait, il y a, vu que c'est une écriture un petit peu particulière, comme je disais, qui est plus thriller, c'est-à-dire que les personnages rentrent dans. Les personnages sont posés dans le milieu, on ne sait rien d'eux. On va découvrir l'univers en même temps que ainsi de suite, un peu à la manière d'un polar. Les puristes de la fantasy me disent qu'il n'y a pas assez de développement. Et à côté de ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude que le développement arrive sur plusieurs tomes, je pense, en fait, qu'on n'est pas tous sur un seul tome. Et il y en a d'autres qui, au contraire, trouvent que ça fait quelque chose d'original et que ça, justement, ça accroche. C'est une nouvelle approche. Le deuxième tome, je n'ai pas changé en fait ma façon de faire, puisque dans une critique, on s'en rend compte, une critique positive ou négative, hein, on s'en rend compte qu'une même critique va y avoir du bon et du mauvais pour certains. C'est une personne qui m'a dit, ah oui, l'univers n'est pas du tout développé, ça ne va pas. Et l'autre, au contraire, me dit, c'est le fait que les descriptions soient très précises et trois courtes, très courtes, donne quelque chose de nouveau dans ce genre. Je ne sais pas lequel tu es. Est-ce que je suis plutôt celui qui trouve que les descriptions sont courtes ou plutôt celui qui trouve que ce n'est pas assez développé? On essaie de faire toujours un compromis, mais on se rend vite compte qu'un même avis peut avoir du positif et du négatif.
Alors, Robin, 25 ans de retour de lecteur, 20 ans de retour de lecteur, quelle place ont ces retours dans l'évolution de vos séries?
This is eventually going to happen. In
que j'ai très vite appris à ne plus lire. Et à l'époque de l'arrivée du courrier électronique, la transition a été, je l'avoue, assez difficile pour moi parce que je recevais par exemple 4 emails qui me disaient qu'ils avaient aimé le livre, des critiques positives. Et puis une qui me disait vous êtes quelqu'un de détestable qui avait écrit un livre détestable. Et après, quand j'allais me coucher le soir et que j'essayais de m'endormir, en fait, je me rappelais surtout la personne qui me disait que j'étais une personne détestable qui avait écrit un livre détestable. Alors, au fil des années, j'ai reçu beaucoup de courriers, de retours merveilleux, des commentaires sur Twitter et Facebook. Mais j'ai malgré tout besoin de laisser un peu une distance levée parce que, pour ne pas me laisser atteindre, et que parce que finalement, je suis au bout du compte le lecteur pour qui j'écris. Et bien sûr, mes lecteurs ne peuvent pas connaître mes personnages ou mon monde en aussi grand détail que moi. Ils ne peuvent pas voir avec deux romans d'avance, ils ne peuvent pas savoir pourquoi tel événement doit arriver parce que. Je ne peux pas changer la direction d'un livre simplement parce que si les lecteurs n'ont pas aimé ce qui s'est passé dans un bouquin, tout simplement parce que si je fais ça, je ne pourrais plus écrire. Parce qu'au bout du compte, à ce moment-là, je n'écrirai plus le livre que moi je voudrais écrire. Ça serait tout simplement que mourir.
Une question sur comment est-ce qu'on maintient la cohésion d'un récit sur plusieurs tomes. Tu as commencé à en parler, Régis, tout à l'heure. Comment est-ce que globalement on fait? Est-ce que tu as des notes maintenant pour savoir où sont les personnages, où sont temporellement parlant, où la géographie. Quels sont un peu vos points de repère à tous pour dire ok, il y a cet événement-là, mais il faut qu'il soit cohérent avec le reste.
Non, j'ai toujours pas de calendrier, c'est pas bien, mais il y a toujours une carte. Ce qui est très intéressant, parce que là, ça fait, il y a actuellement sur cette histoire-là, il y a 2500 pages d'écrit à peu près, ce qui fait quand même un volume assez important. Parfois, on oublie, on perd le fil, on ne sait plus exactement où est le personnage. Alors, il y a un outil extraordinaire, parce que certes, le net nous apporte des critiques qu'on aimerait nous amener parfois, et beaucoup d'autres qui sont très sympathiques, mais il nous donne aussi la possibilité, dans le traitement de texte, hein, d'avoir la fonction recherche. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il suffit d'aller dans le volume précédent en disant mince, où était-il? Dans quel état d'esprit je l'ai laissé? Et donc, je mets à la fin du livre, je tombe pour recherche, je tape le nom du personnage, je saisis, et je reviens en arrière en me disant ah oui, c'est vrai, il était là. Il était là. Et ça me laisse la possibilité de garder la cohérence. Hein, c'est la cohérence de la vie, en quelque sorte. Parce que, à partir du moment où, dans nos vies de tous les jours, hein, même si on n'est pas des personnages de roman, la cohérence se fabrique parce que tout simplement le temps avance. Il va y avoir un moment donné, on va penser que quelque chose va se dérouler d'une manière particulière, et puis il y a un moment, c'est pas ce qui s'est produit. On va refabriquer une cohérence avec les données qui ont tout simplement changé. Je pense que dans le sens des cette fois, dans la manière d'écrire, ce qui est sur la cohérence, c'est tout simplement la chronologie. C'est la chronologie. C'est-à-dire où on était, qui t'a répété un peu, à quel endroit nous nous trouvions, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis et qu'est-ce qu'on va faire après. Et la cohérence se fabrique, la structure se fabrique au fur et à mesure de l'écriture. C'est comme dit Pierre Bordage, l'écriture qui structure. Et le temps qui est le garant finalement de l'homogénéité et de la cohérence.
Une même question pour toi, Estelle, avec en plus toi, la partie historique. Donc peut-être beaucoup de documentation et beaucoup de notes, toutes choses comme ça.
Alors oui, beaucoup de documentation, mais ça j'aime bien. Voilà, j'ai un peu une passion perverse pour la documentation. Et en fait, écrire la série historique, ça me permet d'accumuler des bouquins et d'avoir un budget livre qui dépasse les plafonds sans être trop coupable. Voilà. Et plus généralement, vraiment, la période historique, ça me permet de faire des voyages dans le temps, en fait, de vraiment revivre le temps que j'écris dans ces univers disparus, dans Paris tel qu'elle était au 5e siècle, d'avoir vraiment l'impression de me promener dans les rues de Paris au 5e siècle, de sentir les odeurs, même donc qui sortent des petites boutiques près des thermes, de me battre au glaive dans une ruelle de Gaulle, et voilà, de vraiment vivre tout ça au travers de l'écriture, parce que
c'est peut-être mon côté comédienne où j'ai fait beaucoup de travail de mémoire quand je faisais du théâtre, mais je n'utilise pas en fait moi, la fonction recherchée. Par contre, vous me demandez tel événement, telle phrase du livre, est-ce qu'elle se trouve, je la trouve en 30 secondes.
Voilà. Ça, c'est un bon test à lui demander en dédicace. Même question pour toi Pierre, donc on a bien compris, c'était un premier roman, puis du coup, il va y avoir des suites. Du coup, est-ce que tu as posé des éléments pour garder une cohérence ensemble?
Oui, alors j'ai posé des éléments, mais alors l'avantage d'un monde inventé, dans un monde d'héroïque fantasy inventé, c'est que ben, le côté historique, vous le créez vous-même. C'est-à-dire que vous faites l'histoire avec un grand H, c'est vous qui l'inventez. Donc au final, vous pouvez toujours retomber sur ce repas. Et moi, effectivement, dans ce roman, je me suis beaucoup amusé à mettre des petites astérisques avec des éléments du monde, des éléments historiques du monde que les gens ne connaissent pas, mais qui vont découvrir au fur et à mesure. Et donc, effectivement, ça garde une cohérence. Et mal, on va dire que la cohérence va se renforcer au fur et à mesure que l'histoire, avec l'avantage, va s'écrire.
Alors, une autre question, parce que pour évidemment, on l'a dit, 25 ans avec Fitz, Régis t'a passé 3-4 ans. Est-ce que vous n'en avez pas marre à un moment de voir ce même personnage et de rester dans ce même univers et d'écrire toujours dans cette même série? Comment est-ce que c'est toujours un plaisir ou est-ce qu'il y a un moment où on aimerait bien passer un peu à autre chose? Vas-y Régis, et puis après on interrogera.
C'est vrai que écrire, ça fait 3 ans, 4 ans que j'écris, ça fait 2 ans qu'il est sorti le premier tome. Donc je ne suis peut-être pas encore à saturation. Mais je crois que quand on supporte plus ces personnages, il faut aller faire autre chose. Il faut aller au cinéma, faire le vaisselle. Enfin, et après, ça revient parce que je crois que quand on supporte plus ces personnages, c'est parce qu'on sait plus quoi leur faire. C'est que la dynamique n'est pas là. Et soit on s'entête, hein, mais à ce moment-là, il faut faire des corrections. On prend un chapitre d'avant, on commence à regarder les questions d'orthographe, de syntaxe, est-ce que c'est fluide, et puis on réessaye une heure après, et peut-être que les choses vont venir. Je crois que parfois l'écriture nous résiste, hein, et parfois l'écriture est très fluide. Hein. Il faut savoir être assez souple et s'adapter justement à cette donnée-là. C'est pas comme monter les parfums, hein, où on sait que si on en monte de 20 à l'heure, on peut peut-être aller dans 80. Parfois, effectivement, ça peut s'avérer pesant, mais moins des parfums. Ça peut s'avérer pesant, mais d'un autre côté, je crois qu'il ne faut pas être déçu. Et je pense que si à un moment donné, après l'écriture du 7e tome, si j'en ai assez, je laisserai dans d'autres univers, quitte à y revenir éventuellement par la suite, quand j'aurai retrouvé l'envie et le plaisir, et que les personnages reprendront vie un peu, et c'est eux qui nous disent ce qu'on doit écrire en quelque sorte.
Alors, Robinon, est-ce que vous en avez eu marre à un moment de vos univers, de vos personnages?
Changed and grown, so it is like catching up with old friends. Generally speaking, we don't get tired of our friends and our family. We may get frustrated with them, we may get annoyed with them, but when you have stayed in a certain world or with certain characters for a long time, it's because they interest you. I don't think I could successfully write a character that I did not find interesting, that I did not love, simply because I would become bored with writing that character. So it's enjoyable to engage that deeply and then to come back and say, this happened to you, how did it change you? Or to say, you are now 20 years older, what has changed and how you see the world. So for me, it's actually a pleasure to continue working with characters. I also enjoy the new ones who step onto the stage in every book and stir things up to make things more exciting.
Je m'en laisse pas simplement parce que ces personnages grandissent, ils changent. Et en fait, revenir les voir et les retrouver, ça revient un peu à rattraper le temps perdu avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et de toute façon, comme ce sont des amis, on ne se lasse pas en principe de ses amis et de sa famille. Je pense qu'on reste dans un monde pendant une si longue durée parce que tout simplement, les mécaniques de ce monde et ces personnes vous intéressent. Je pense
pense pas que je serais capable d'écrire un personnage simplement qui ne m'intéresserait pas ou que je n'aimerais pas. Là, effectivement, je m'ennuierais. Je pense qu'il faut que j'écrive simplement des choses qui m'intéressent et qui me font plaisir. Il y a des questions qui se posent, par exemple, quand il arrive des péripéties à des personnages, des événements, c'est comme revenir les voir, leur dire alors, il t'est arrivé telle chose, en quoi ça t'a fait changer, en quoi ça t'a fait grandir. Tu es 20 ans plus âgé. Quelle est la façon, en quoi ça t'a fait évoluer, en quoi ça a fait peut-être changer ta façon de voir le monde. Et c'est un plaisir de travailler sur cette dimension avec ces personnages-là. Et j'aime également tout autant les nouveaux personnages qui arrivent sur le devant de la scène et puis qui remuent un peu le décor et l'intrigue et qui contribuent à garder les choses intéressantes.
Alors moi j'ai une question pour le traducteur, parce que Lionel est traducteur, mais il est aussi auteur. Et c'est l'inverse un peu de Pierre Lelong. Lionel, quand il fait plutôt de la fantaisie, il fait court, mais par contre, il a fait une trilogie de thriller. Alors, est-ce que Lionel, c'est, par rapport à tout ce qu'on a dit, ce sont les mêmes mécanismes sur le développement du personnage, sur le développement de l'univers, sur le maintien en haleine qui est encore plus important en thriller? Est-ce que tu te retrouves par rapport à tout ce qui a été dit en fantaisie?
Oui, tout à fait. De toute façon, moi, je suis très d'accord avec Robin. Moi, un personnage, une série qui ne m'intéresse pas, et aussi ce qui a été dit sur le fait que c'est un personnage, si un chapitre nous assemble, c'est qu'il ne se passe pas assez de trucs et qu'il faut, parfois on peut résumer très bien ce qui se passe en deux phrases. Donc que ce soit en thriller ou en fantasy, pour moi il faut que l'histoire avance d'une manière ou d'une autre. Donc oui, mais je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit aussi sur le fait d'avoir la possibilité d'avoir construit une intrigue et un personnage au long cours, et de lui donner la place d'évoluer, de grandir et de pouvoir mettre en place un monde. C'est un peu là, si alors les grammaires sont pas les mêmes, les grammaires ne sont pas les mêmes, mais c'est un peu la différence entre voir un film au cinéma et avoir cette saison d'une série qu'on aime. Ça donne tout simplement pas la place, la même place et le développement. Par contre, concernant la fantasy et le thriller, j'ai un peu toujours tendance à moins voir des histoires qui avancent, donc je ne crois pas de j'ai tendance un peu à écrire ces choses-là de manière, si ça ne m'intéresse pas et si ça n'avance pas, je m'ennuie. Et si je m'ennuie, je ne peux pas compter que les lecteurs s'amusent.
Mais est-ce que tu as besoin de plus de tension dans le thriller? Est-ce que c'est compliqué sur les trois tomes de Léviathan?
Je pense que c'est simplement l'histoire qui, en fait, quand j'écris Léviathan, ça a été catégorisé comme thriller par l'éditeur, en fait. Pour moi, j'ai écrit une trilogie de fantasy urbaine qui se trouve se passer aujourd'hui, Los Angeles, avec des conspirations, etc. Donc, c'est les éléments du thriller. Je pense que c'est simplement l'histoire et cette dynamique qui impose la chose. Je cherche pas à me dire je vais écrire de la fantasy, je vais faire le thriller, je vais faire de la SF, etc. J'écris une histoire qui me plaît, je fais après confiance à l'éditeur pour dire bon, bah, c'est du thriller, c'est de la fantasy, etc. Et de façon à ce que ça trouve le public, que ça doit toucher. Et c'est simplement la dynamique interne de l'histoire. Léviathan est une série assez sombre. Il y a un aspect roman de voyage, donc il y a aussi la question de la dimension du voyage qu'il faut mettre. C'est l'histoire qui va dicter sa dynamique, je pense. Et après, on met l'étiquette dessus.
Il me reste une dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos auteurs? Un petit peu ou pas? Une fois, deux fois, trois fois. Oui, là-bas. Un, deux, oui, c'est bon, ça marche.
J'ai une question pour Robina, je voulais savoir si elle savait déjà combien de tomes allait comporter sa nouvelle série sur Fit, c'est le faux, et si elle avait déjà prévu d'autres aventures dans le monde des anciens. Et si elle a prévu d'autres aventures dans le monde des anciens. Oh, that is difficult for me to answer right now.
ça va être difficile de répondre pour l'instant parce que, en fait, donc, je viens donc, j'ai rendu les deux premiers livres de cette trilogie. Arnaud et Lampré, donc mon traducteur, est en train de travailler actuellement sur donc, le deuxième volume de Miroir Lopez de cette série. Et je suis extrêmement concentré sur l'écriture du troisième. Et j'ai donc mon attention entièrement concentrée sur ce roman-là. Donc j'avoue que je n'ai pas vraiment l'énergie ni la place mentale de réfléchir à ce que je vais écrire ensuite. J'ai besoin d'être concentré à ce point-là, en fait, sur ce livre-là. Je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Mon éditeur m'a posé exactement la question, vous, il me dit alors, qu'est-ce que vous comptez faire après. Et je suis forcé de répondre que pour l'instant, malheureusement, je n'ai aucune idée.
If there were such an offer, because it is not a field where I have a great deal of experience or expertise, I would turn to my agent, who is very experienced, who indeed was one of the forces behind the Game of Thrones becoming a series, and I would let Vince tell me if this was a good idea or not. That's why you have an agent to give you expert advice.
Malheureusement, ces décisions-là ne sont pas du ressort de l'écrivain. En ce qui me concerne, je n'ai pas les capacités et les compétences pour faire une série télé ou un film. Donc, un tel projet doit être réalisé par quelqu'un qui a ses compétences et ses talents. Et donc, pour que ça se réalise, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise, qui me demande si c'est ce que je peux faire une série télé ou un film dérivé de notre travail. La décision ne revient pas si une telle offre devait se présenter à moi. Ma foi, je dois admettre que j'ai pas assez d'expérience, pas du tout d'expérience pour décider si c'est une bonne idée ou si l'offre est intéressante. Donc si ça devait arriver, je me tournerai vers mon agent qui a cette expérience, d'ailleurs qui fait partie des forces vives derrière la réalisation de Game of Thrones. Et je laisserai donc Vince me dire si c'est une bonne idée ou pas. C'est justement à ça que les agents servent, c'est pour pouvoir nous donner des conseils d'experts, parce que eux savent. Y a-t-il au temps pour une dernière question?
On reviendra encore une fois. Trop fatidique. Comme elle expliquait que ces personnages étaient comme des vieux amis, qui donc parfois sont des histoires différentes, je me demandais comme à la façon dont des amis ont fait se rencontrer, parfois elle regrettait de ne pas pouvoir présenter ces personnages à ses autres personnages, malgré la cohérence.
Je pense qu'il faut simplement suivre là où l'histoire nous conduit. Je pense que simplement juste vouloir prendre un personnage d'un côté et puis un autre de l'autre et puis les faire se rencontrer, je pense que ça pourrait vite apparaître forcé. Et je ne suis pas sûr que ça ferait une bonne histoire. Enfin, effectivement, quand même, ça se produit. Et donc, à ce moment-là, il faut simplement suivre l'histoire. Mais une histoire, finalement, c'est un petit peu comme suivre le courant sur une rivière ou un fleuve, il faut rester dans la partie. intéressante. Donc il faut, je regarde juste où est-ce que l'histoire me porte, et puis on verra où est-ce qu'elle va.
I'm fascinated that Lionel is taking the notes in English and then relaying them to you in French. I don't know how his brain works.
I don't either. Vous avez compris, elle est fascinée par le travail de Lionel. On remercie nos internautes, vous allez pouvoir les retrouver en dédicace tout de suite. Si vous souhaitez une